Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Je suis sûre qu'il vous avait manqué ce jingle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission qui nous fait voyager et voir le monde différemment. Aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir et pas n'importe lequel, celui de la ville. On l'a dit intelligente, on l'a dit écologique, on l'a dit confortable. À quoi ressemblera vraiment la ville de demain? C'est une question que je vous pose, Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna, ravi de vous retrouver.
Mais ravi également pour cette deuxième saison.
Alors, il a fait chaud, la sécheresse, la canicule, les températures parfois inégalées dans nos villes pendant ces mois d'été. Il a fait chaud, on a eu chaud pendant ces derniers mois, le virus et puis la canicule. Tu chauffes, tu brûles, tu y es presque, comme disent les enfants quand ils sont sur le point de trouver la cachette. Ça risque encore de chauffer, le climat qui se dérègle, la terre qui brûle, nos villes surpeuplées qui ont chaud, bref... Partout ce sentiment d'étouffer, ce besoin de s'aérer, de respirer, de sortir de nos villes pour aller prendre l'air, se rafraîchir. C'est pour évoquer cette ville qu'il faut adapter, repenser cette ville que nous voulons, que nous rêvons tous comme devant être plus vivable, plus agréable et plus apaisée, que s'ouvre cette émission de cette nouvelle saison de Complètement à l'Ouest. Et je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec vous, Johanna. Complètement à l'Ouest continue donc sa route éclectique pour cette nouvelle saison que je souhaite pleine de surprises, de beauté, de folie et pourquoi pas d'émotion. Et bien sûr, tout cela rendu possible par et grâce à nos invités qui vont se succéder à ce micro. Alors pour cette première de cette saison 2, nous allons parler poésie et ville. Nous allons évoquer la ville rêvée et la ville réelle. La ville qui se construit telle qu'on l'imagine et telle qu'on la voudrait. Pour tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des pionniers de la ville intelligente en France et dans le monde, du fait de sa double nationalité française et colombienne, un penseur et un homme d'action, un universitaire et un conseiller d'élus locaux. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Ravi de vous accueillir dans Complètement à l'Ouest. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire un petit livre numérique passionnant intitulé « Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 » avec un point d'interrogation. Alors, et avant que l'on vous martyrise avec nos questions sur la ville, l'urbanisme, l'architecture, je voudrais vous faire écouter ce très court reportage qui justement parle de cette ville rêvée, idéale, qui pourrait bien se situer en Inde.
Une ville entière planifiée d'une main de maître, celle du Corbusier, pionnier franco-suisse de l'architecture moderne. C'est ici, en Inde, que se trouve son héritage le plus complet, Chandigarh, dans le nord du pays, et ses infrastructures uniques, comme son palais de justice. Cet architecte indien travaillait avec le Corbusier il y a 60 ans sur les plans de la ville qui fait aujourd'hui la fierté de l'Inde.
To see him and watch him.
Le voir et observer comment il a érigé sa philosophie dans chaque ligne, que ça soit l'ordre, l'utilisation cristalline de la géométrie, la simplicité des lignes, de l'expression, de la narration. Vous pouvez observer tout ça en étant à ses côtés.
Après l'indépendance de 1947, le Premier ministre Nehru veut moderniser la nation et s'adresse à un grand nom de l'architecture. Il engage le Corbusier, qui privilégie les espaces verts et un système de quadrillage. Pour beaucoup d'Indiens, c'est aujourd'hui l'une des villes les plus agréables à vivre du pays.
Carlos Moreno, le Corbusier, on l'a presque entendu, dessiner ses villes en y appliquant des formes géométriques, droites, rectilignes, à angle droit. Est-ce que c'est aussi votre conception de la ville, entre guillemets, idéale ?
Merci pour cette invitation. Et, en fait, je vais vous décevoir, Philippe, puisque je l'ai dit également dans mon texte, pour moi, il n'y a pas de ville idéale. Pour moi, il n'y a pas de perfection. Les villes, elles comportent trois choses par leur complexité. L'imperfection, l'incomplétude et la fragilité. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans la ville... J'ai mes revendiques de l'héritage de Jane Jacobs, qui était une activiste nord-américaine, et comment rendre la ville vivante, au-delà de sa forme, au-delà de sa géométrie, au-delà de ses angles droits ou arrondis. Est-ce que les gens qui vivent dans ces lieux, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils pourront être heureux? Et ça, qui est important aujourd'hui à creuser.
Alors, si on en vient au concept central de votre livre avec cette fameuse ville du quart d'heure dont on a beaucoup entendu parler au cours de ces dernières semaines, derniers mois et singulièrement pendant la campagne électorale. Alors, d'où vient cette ville du quart d'heure et surtout, que veut-elle dire et comment elle trouve une concrétisation, j'allais dire concrète?
Vous savez, Philippe, on entend pas seulement d'une manière singulière, mais d'une manière plurielle. Et la ville du quart d'heure, parce qu'effectivement, c'est un concept sur lequel je travaille depuis très longtemps, autour de cette notion du temps utile dans la vie qui nous a été volé par le productivisme qui s'est installé, avec un mode de production et de consommation massive qui a fait que nos villes soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, minéral, beaucoup de béton, de boulevards, de rues, pour des hommes et des femmes sans tort, moitié hommes, femmes, moitié véhicules, et des villes qui, on le voit en Inde, on ne peut même plus y habiter tellement elles sont polluées. Donc, si aujourd'hui ce concept fait le tour du monde, dans toutes les langues, et dans tous les coins dans lesquels aujourd'hui il y a une espèce d'effervescence, c'est parce qu'il nous rappelle quelque chose de fondamental à l'ère du changement climatique et maintenant à l'ère du Covid, qu'il faut vivre autrement pour acquérir une qualité de vie qui finalement a été perdue parce que nous avons le temps. On n'a pas le temps de vivre et on n'a pas le temps de vivre correctement. C'est ça l'objet central, au-delà qu'elle s'appelle la ville du quart d'heure, de 12 minutes ou d'un 15 minutes 50. Mais un quart d'heure, ça impacte chez les gens parce que ce n'est pas tout à fait chez moi et ce n'est pas tout à fait trop loin. C'est un peu entre les deux. Et c'est entre les deux, ça fait émerger des nouvelles idées pour se réapproprier de la vie, de la ville et de l'espace public autrement.
Alors, vous évoquez aussi dans votre livre, vous parlez de chrono-urbanisme en insistant pour que les architectes des villes et les urbanistes construisent des villes qui proposent d'autres rythmes de vie. C'est exactement la notion que vous évoquez à l'instant, la notion de temps. Mais comment doit-on s'y prendre, là encore une fois, concrètement, pour qu'enfin cette ville rêvée, et non pas idéale, j'ai bien retenu ce que vous aviez dit, apparaisse? Est-ce que ce n'est pas quelque part un petit peu utopique quand même?
Il y a toujours une part d'utopie dans toute transformation radicale, quand on veut changer de paradigme. Et l'histoire de toutes les révolutions, qu'elles soient technologiques, urbaines, sociales, il y a toujours une part d'utopie. Et un jour, cette utopie devient une réalité. Certaines deviennent des dystopies, des lieux dans lesquels surtout on ne voudrait pas y être, et d'autres donc nous changent. Et ce concept de la ville du quart d'heure qui rentre dans cette notion de ville des proximités, le chronourbanisme, c'est un autre rythme de la ville, la chronotopie. Utiliser mieux et plus ce qu'on a déjà construit, pas forcément construire encore la ville, mais utiliser mieux ce qui existe déjà. Il y a ensuite la topophilie, c'est-à-dire aimer le lieu. Et concrètement, il y a énormément de choses qu'on peut faire. La première d'elles, c'est d'offrir la redécouverte de la proximité pour faire ses courses, pour dire bonjour aux gens, pour que les enfants jouent dans la rue, pour que les personnes fragiles, on s'en occupe d'elles, pour que les centres de santé soient à proximité, pour qu'il y ait des espaces culturels, pour qu'il y ait une capacité à, dans les écoles, le s'ouvrir et faire d'autres choses qu'enseigner, pour que les gymnases soient autre chose que faire des cours de sport, qu'on puisse accueillir d'autres activités, pour qu'un café soit en cours de langue, parce que les gens se retrouvent avec une petite veston, on a marqué les langues qu'on pratique, et que donc ça permet de faire des cours de langue, on en a bien besoin dans ces pays. Et vous voyez qu'il y a énormément d'idées qui ne coûtent pas cher. On veut redéployer les ressources de la ville, et mieux encore, on veut retrouver ce qu'on appelle les ressources cachées. Plein de choses que vous avez autour de vous, et tout simplement on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas l'habitude de les utiliser autrement que pour ce pourquoi un jour elles ont été faites. C'est redécouvrir la proximité, redécouvrir le voisin, redécouvrir donc des usages nouveaux, sortir de la routine. C'est pour ça que ça s'appelle le chrono-urbanisme, parce que nous voulons rompre la routine, changer le rythme de vie. Et nous voulons réinventer les lieux. C'est pour ça qu'on appelle ça la polyvalence. Et nous voulons que les gens prennent soin de l'endroit où ils vivent. On appelle ça la topophilie, pour être avec une autre urbanité. J'ai témoin des papiers par terre, parce qu'on peut acheter toutes les machines de ramassage des poubelles que vous voulez, mais la première urbanité, c'est que les gens ne jettent pas par terre, ni les masques et toute autre chose, et qu'on se respecte.
finalement,
allez-y, Joanne.
C'est l'application de la mixité des usages hein, dont on parle beaucoup au service de l'humain.
Parfaitement, c'est une très très bonne définition de cette ville de proximité. Les usages aujourd'hui, c'est le cœur de la transformation urbaine. Et ils doivent être guidés par deux critères majeurs. Le premier, la lutte pour le climat, pour qu'à l'horizon 2050, on ait la neutralité carbone, si on veut que la planète, à la fin de ce siècle, offre des conditions agréables de vie pour les générations futures. Et deuxièmement, il faut que, dans les temps de Covid, où il faut garder des distances physiques, on le voit dans ces studios, on ne perde pas le plus précieux, qui est l'intensité sociale. Distance physique, oui, mais intensité sociale. Puisque si on perd l'intensité sociale, bah, on aura tout perdu. On aura des villes désincarnées, déshumanisées, des villes dans lesquelles on ne se croise plus, dans lesquelles on s'ignore. Et vous savez très bien que ça, c'est le creuset du populisme, ou du racisme, ou du rejet, et où on en a besoin aujourd'hui de recoudre les tissus sociaux. C'est la fabrique de la ville, et vous savez que fabrique, c'est tissu en anglais. Donc on a raison de retisser les liens sociaux.
Alors cette intensité sociale que vous évoquez, finalement la place extrême et au bon sens du terme de l'humain dans la ville, est un peu à l'opposé de la ville rêvée, cette ville intelligente, bardée de capteurs et d'algorithmes, cette ville connectée. Et au moment où, de cette crise sanitaire, le numérique n'a pas forcément, et on l'a vu, été le lien. Et quelle doit être, selon vous, la bonne place laissée au numérique dans la ville par rapport à ce que vous dites, à cette intensité sociale et humaine?
Je voudrais profiter pour rendre hommage à notre confrère, penseur, philosophe, Bernard Sidler, qui est mort récemment.
Début août.
Et j'ai une pensée émue pour lui, parce que Bernard, il a beaucoup réfléchi sur le travail. À l'origine, le travail, c'était le mot tripalium, qui est un instrument de torture. Et Bernard a beaucoup réfléchit sur les nouvelles technologies.
Bien sûr.
Et il nous a laissé donc cette vision du numérique comme le pharmacon grec.
Le bien et le mal,
remède et poison. Voilà. Et donc, cet outil technologique qui a une particularité parce qu'il est en même temps science. La science informatique dérivée la science de l'informatique dérivée des mathématiques, mais également c'est un outil. Donc, vous savez que nous vivons aujourd'hui dans une planète hyper connectée. Mais on n'a jamais été aussi massivement hyperconnecté et en même temps aussi socialement déconnecté. Vous voyez les bulles qui amènent Trump au pouvoir, Bolsonaro, etc., puisqu'elles sont génératrices de racisme, de violence. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'un numérique qui soit au service des usages. Et on le voit avec la crise du Covid, comment en 24 heures ou en 48 heures, toute la planète doit réinventer un mode de travail dans lequel le numérique est au cœur pour retrouver ce qu'on appelle le télétravail, terme que je n'aime pas parce que je ne suis pas pour que les gens travaillent chez eux en pyjama parce que ça devient un outil d'asservissement et des violations de l'intimité, mais par contre qu'on irrigue, qu'on vienne mailler la proximité avec de nouveaux lieux qui peuvent délocaliser le travail pour offrir de meilleures conditions et une facilité d'usage de ces technologies.
Merci Carlos Moreno pour ce premier éclairage sur la ville. Vous ne bougez pas, hein, vous restez bien avec nous. On va faire une petite parenthèse sur les lieux à voir et à visiter. C'est parti pour les carnets de voyage.
Complètement à l'ouest, carnet de voyage.
Vous le savez, hein, la situation sanitaire n'est pas encore au beau fixe. Les musées, les salles de spectacle rouvrent progressivement. Et j'ai même envie d'ajouter pour combien de temps encore. On vous a quand même rédigé quelques pages de nos carnets de voyage avec ce qu'il y a à voir ou à visiter cet automne. Et puis on ouvre ce carnet aujourd'hui avec l'exposition Matisse au Centre Pompidou. D'abord programmée au printemps, puis reportée. Elle ouvre finalement ses portes le 21 octobre prochain. Notez bien la date. Il faudra s'attendre à une exposition exceptionnelle et originale qui aura pour but d'explorer les liens entre littérature et le peintre. Elle est à découvrir jusqu'au 22 février 2021 au Centre Pompidou à Paris.
Alors la rentrée sera chaude sur le front social. Non, il ne s'agit pas de prévision en vue de futures grèves, mais de l'évocation d'une très intéressante exposition consacré aux représentations du travail et des soulèvements populaires de 1870 à 1914. Et pour voir cette exposition, il faut aller à Caen, dans le Calvados, au Musée des Beaux-Arts. Une majorité des œuvres présentées mettent en scène la lutte contre les inégalités, la maladie, le chômage et bien sûr, thème d'aujourd'hui, les villes avec ses banlieues ouvrières. L'exposition se nomme « Les villes ardentes, art, travail, révolte, 1870-1914 au Musée des Beaux-Arts ». À Caen, et c'est jusqu'au 22 novembre.
Et puis on reste dans les sujets de la construction de la ville et des paysages avec l'exposition intitulée XXHL, Gigatour et Mégapont. C'est à la Cité des sciences et de l'industrie Porte de la Villette. Il s'agit d'une exposition immersive consacrée à la construction hors normes. Elle met en avant les prouesses techniques et le savoir-faire développés par les ingénieurs, les architectes et les constructeurs qui ont participé à la construction d'édifices connus dans le monde entier, tels que le Burj Khalifa à Dubaï, le viaduc de Milo, en passant par le projet de rénovation de la tour Montparnasse à Paris, résistance des matériaux et des structures, technique des fondations, équilibre des forces et analyse des performances énergétiques. L'exposition vous permettra de comprendre les enjeux de la construction de ces ouvrages exceptionnels qui conjuguent aujourd'hui préoccupations esthétiques, fonctionnelles et responsables. C'est passionnant et c'est très bien fait. Cette exposition s'est ouverte le 1er septembre dernier et elle est à visiter jusqu'au 7 mars 2021. Encore une fois, c'est à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette.
Allez, bis repetita, nous en avions parlé à ce même micro quelques jours avant le confinement et la bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que l'exposition William Turner au musée Jacques Marandré est prolongée jusqu'au 11 janvier 2021. Alors si vous aimez l'âge d'or de l'aquarelle anglaise, il faut aller voir cette très belle exposition qui rassemble une soixantaine d'aquarelles et une dizaine de peintures à l'huile, dont certaines n'ont jamais été présentées en France et qui sont donc visibles à Paris pour cette magnifique exposition. Turner, peinture et aquarelle, collection de la Tate, c'est du 13 mars jusqu'au 20 juillet 2020, mais donc reporté jusqu'au 11 janvier 2021. Et c'est à Paris, dans le 8e boulevard Haussmann.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
De retour avec notre invité, c'est l'urbaniste Carlos Moreno. N'est-ce pas Philippe ?
Oui, pour cette émission consacrée à la conception des villes, et c'est passionnant puisque Carlos Moreno sort un ouvrage numérique « Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 », point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation ?
Parce que nous vivons un temps d'incertitude et il est absolument nécessaire que nous soyons aujourd'hui dans le doute pour pouvoir trouver les bons chemins qui s'imposent.
J'aime douter aussi. Alors, en tant qu'urbaniste, vous vous êtes intéressé aux fameuses Smart City, on en parlait avant le carnet de voyage. Ces villes, je dis bien prétendument intelligentes, grâce et en partie aux technologies, avec un peu de recul, est-ce que ce sujet des Smart City, est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est un mirage ?
Alors, la question tombe bien parce que, en fait, je ne suis pas urbaniste. Je viens du monde des mathématiques et de l'informatique, donc mon PhD, et sur l'intelligence artificielle, la complexité.
Parlons d'algorithme, alors.
Voilà. Et donc, je suis venu aux villes par la voie technologique et donc par la Smart City, par la ville intelligente. Et j'ai développé une des premières plateformes numériques au monde qui a permis de gérer des billets, des capteurs pour comprendre et gérer, optimiser le fonctionnement de la ville. Et donc, je suis venu au monde de la conception de la ville par les usages parce qu'on était dans une impasse dans la voie technologique, technocentrée, où on voulait vendre des solutions technologiques pour résoudre des problèmes complexes, l'écologie, la vie économique et la vie sociale. Voilà. Effectivement, j'ai gagné les prix de la prospective dès l'Académie d'architecture, mais je ne suis pas un urbaniste, je travaille sur la complexité urbaine. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, la voie technologique est dans une impasse quand elle veut s'imposer par elle-même comme la clé de solution des problèmes d'une très grande complexité.
Ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, quoi.
Totalement. Je suis un de ceux qui ont monté, on va dire, sur le front pour dire que la technologie doit être au service des usages. Personne ne peut me qualifier d'anti-technologue. Puisque non seulement j'ai développé une plateforme, mais une start-up qui a été achetée par un grand groupe mondial. Donc, je dirais que j'ai une connaissance approfondie de la technologie, mais j'ai la modestie du scientifique qui considère que ce sont les usages qui, eux, peuvent transformer le monde, qui est devenu urbain et qui représente aujourd'hui, comme dit notre grand penseur universel Edgar Morin, une complexité dans laquelle, je cite, le plus probable est la désintégration, mais la métamorphose est encore possible. Et moi, je travaille pour que on ait la métamorphose urbaine afin de retrouver une autre manière de vivre.
On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, avant de reprendre notre discussion avec Carlos Moreno. Je vous propose d'écouter ce classique de la chanson française qui va si bien avec le thème du jour. C'est Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille. On se retrouve juste après pour parler des villes de proximité, de notre rapport entre espace de vie et temps utile avec Carlos Moreno et avec Philippe Boyer. Et c'est évidemment sur Radio Imo.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Alors nous parlions de réchauffement climatique et du fait que l'on étouffe dans les villes lors de notre particulier de ces épisodes de canicule. Quelle doit être selon vous la place du végétal dans nos cités? La fameuse résilience urbaine passe-t-elle seulement par le végétal?
C'est une excellente question parce que je souhaite dire à tous mes amis écologistes qui nous écoutent, la place du végétal, la place de la verdure, la place de l'eau est essentielle. Mais la place majeure dont nous avons tous besoin, c'est la place du vivant. Je cite Augustin Berg dans mon livre, donc l'écumène, le grand géographe, qui dit « Entre moi et moi la terre ». Nous avons une vision de l'écologie comme un humanisme. La vision écologique au travers de l'humanisme signifie que le végétal doit avant tout fixer l'homme. Le végétal doit aider l'homme à s'accomplir. Le végétal doit aider l'homme à développer de nouveaux rapports sociaux. Le végétal doit jouer un rôle dans le métabolisme de la ville, mais également dans le métabolisme de la ville par rapport à la manière comme nous sommes capables de créer des relations avec beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus d'inclusivité, beaucoup plus d'altérité, pour utiliser ce mot-là, où le regard de l'un traverse le regard de l'autre. Donc l'écologie, si elle n'est pas un humanisme, ça restera tout simplement des slogans qui sont peut-être bien, mais pour lesquels on ne pourra pas bâtir un nouveau mode de vie des villes.
Mais concrètement, pour mettre plus d'humanisme, plus d'écologie dans la ville, est-ce qu'il faut développer plus de végétalisation, développer de nouveaux lieux d'échange et de partage? Ça passe aussi très concrètement par ce genre de choses ?
Oui, très concrètement, nous avons besoin aujourd'hui de déminéraliser la ville. Donc nos villes aujourd'hui, en France en particulier, sont extrêmement minérales parce que c'est l'héritage d'une vision souvent très technocratique de la ville. Donc nous avons besoin de retrouver l'eau, de retrouver le végétal, nous avons besoin de retrouver de l'air. En fait, nous avons besoin de quatre choses majeures qui sont nos quatre éléments. Qui héritage donc depuis les temps anciens des Grecs, l'air, l'eau, le feu et la terre. Le feu au travers de l'énergie, l'éther sur la manière comme on utilise l'espace public ou l'espace privé, l'air parce qu'il est pollué et donc aujourd'hui il est attentatoire contre la santé, l'eau parce qu'il est vital pour toutes nos actions. Et c'est cet ensemble en fait qu'on va appeler et la végétalisation, c'est les quatre éléments confondus. Mais nous devons rajouter avec une écologie à l'échelle humaine la notion de l'utilisation de l'espace urbain dans son ensemble et surtout la notion du temps. Et ce que je rappelle, c'est qu'une écologie humaniste doit fixer l'humain en lui donnant le temps des vies qui lui permet de les rendre donc capable de s'épanouir au-delà d'être une machine à produire et une machine à consommer. C'est ça l'humanité écologique de la ville du quart d'heure, de la ville des proximités que je revendique dans mon livre.
Chrono-urbanisme, chronotopie, topophilie, si j'ai bien retenu ce que vous disiez précédemment. Je disais en vous présentant au début de l'émission que vous êtes franco-colombien. Vous avez la chance d'avoir cette double culture et surtout ce regard international et du fait des nombreuses conférences que vous faites de par le monde. Que nous apprend l'urbanisme, la conception des villes ailleurs sur d'autres continents ? Que reste-t-il finalement à importer sur notre vieux continent d'idées intéressantes provenant d'Amérique latine que vous connaissez parfaitement bien, d'Afrique, etc.
Et c'est absolument passionnant, Philippe, parce que je suis né effectivement en Colombie. Quand je suis parti de Colombie il y a un peu plus de 40 ans, c'était un continent où il y en avait 30% d'urbains, 70% de ruraux. Donc en 40 ans, il est devenu le continent le plus urbanisé au monde. 80% d'urbains et 20% de ruraux. Donc vous voyez comment la ville s'est développée en devenant cette espèce de ville souvent chaotique, informelle, mais également porteuse de beaucoup d'inégalités et également porteuse de beaucoup d'espoir. Quand vous regardez aujourd'hui la croissance urbaine donc, dans le monde, vous pouvez imaginer que la croissance urbaine à l'horizon donc, 2050, nous avons 80% de cette croissance urbaine se fait donc, en Asie et en Afrique. Et un tiers de cette croissance est uniquement trois pays, l'Inde, la Chine et le Nigeria. Donc vous voyez que notre vision urbaine par rapport à un continent qui n'a pratiquement pas bougé sur 50 ans en démographie et qui le restera, à peu près entre 600 et 700 millions d'habitants, avec des villes très très historiques, est soumise à un challenge qui n'est pas le challenge de se dire il va y avoir beaucoup d'Africains qui vont nous venir nous envahir. Non, la problématique aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui, dans cette planète qui se développe d'une manière très chaotique, les villes dans lesquelles habite aujourd'hui la majorité de la population peuvent réussir à trouver des nouveaux équilibres écologiques, économiques et sociaux. Et c'est assez passionnant parce que, comme vous voyez, par exemple, l'Amérique latine où je suis né, des villes comme Medellín,
que vous connaissez parfaitement,
que je connais très bien, absolument, ma mère y est née, ma famille est de Medellín en grande partie, qui était soumise à la violence de la drogue, tout le monde a entendu parler de Pablo Escobar et les mafias sur Netflix et autres, c'est la ville qui a gagné, il n'y a même pas 4 ans, le prix Nobel de ville, comme on l'appelle, donc le prix Lee Kuan Yew à Singapour, au World City Summit. Et aujourd'hui, c'est une ville totalement exemplaire. Le métro câble, le câble aérien, qui utilise donc des ressources que nous utilisons ici pour aller faire du sport d'hiver, là-bas, c'est un moyen de transport. Mais il n'y a pas que ça. C'est que chacune des stations de correspondance, ce sont des lieux de vie. Il y a des lieux pour les femmes, pour les jeunes, pour les start-up, des lieux de démocratie. Donc nous devons, en fait, reprendre également des leçons d'humilité par rapport à la manière comme nous vivons dans nos villes, parce que nous vivons dans des villes qui sont très historiques, mais qui ont besoin quand même de retrouver ce que Jane Jacobs appelait la ville vivante, c'est-à-dire une ville dans laquelle la mixité, la diversité, les croissements des gens de divers horizons permet de donner de l'énergie. Et c'est un peu parfois ce qui nous manque ici et ce qui est très très présente dans ces pays-là, en Amérique latine, en Afrique. Cette énergie, elle est débordante. Et par contre, il faut la canaliser pour aller sur des modèles d'usage qui soient beaucoup plus respectueux de l'écologie, de l'économie et du social.
On approche à grands pas de la fin de cette émission. Une dernière question peut-être, Philippe ?
Oui, alors on évoquait bien sûr la crise sanitaire et juste une question un peu d'ouverture et de perspective. Comment pourra-t-on vivre en ville ? Comment voyez-vous la cité post-épidémie ? Avec beaucoup de points d'interrogation.
C'est une très bonne question. Et j'ai beaucoup que termine par le mot cité. Parce que cité, donc, latin civitas, et l'équivalence en grec, donc, polis, d'où vient le mot politique, qui correspond en fait aux règles et aux accords qui étaient passés entre les gens qui habitaient la cité de Sparte, la cité d'Athènes, et qui étaient différents de sa infrastructure. Les cités, c'est le contrat social, on va dire, qui est passé pour vivre dans une ville dans laquelle on est figé. Et aujourd'hui, nous avons besoin, à l'ère de la Covid, à l'ère de la pandémie, de réinventer ces contrats sociaux. Je parle également dans mon livre de ce que j'appelle le pacte social urbain. On a besoin de reconsidérer les relations entre les États et les villes. Nous vivons en France dans un État centralisateur, jacobin, qui affectie pour beaucoup la vivacité et la dynamique des gouvernances locales, des maires, des présidents des métropoles. Donc nous avons besoin de dynamiter ce mode de vie pour que les nouvelles règles, donc la police, donc POLIS, donc dans le sens politique, retrouvent donc l'usage des biens publics et que les maires et les présidents des métropoles, dans ces usages des nouvelles règles des contrats sociaux, donnent de l'importance à ce qu'on appelle le commun. Le commun, c'est la prix Nobel d'économie, Léonie Rostrom, dont je parle dans mon livre. Et le commun, c'est tout ce qui est matériel, immatériel, public ou privé, qui concourt à l'amélioration de la qualité de vie de ceux qui partagent un espace et un territoire, hommes et femmes. La cité doit être effectivement en avenir avec un nouveau contrat social et une décentralisation extrêmement accrue. Et pour finir, dernier mot, une cité repose sur une ville et la ville repose dans un territoire. Il n'y a pas de ville hors sol. Donc on ne peut pas réfléchir sur la ville toute seule, on doit réfléchir à tout ce qui l'entoure. Parce que derrière, on va trouver des secteurs moins peuplés, avec beaucoup moins de densité, mais dans lesquels il y a des ressources agricoles, pour créer des circuits courts. Aucune ville sera autosuffisante et elle aura besoin de son territoire. C'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles alliances territoriales pour qu'une ville soit épanouie avec de nouveaux contrats sociaux entre cet ensemble-là.
Dynamiser la ville et non pas dynamiter la ville.
Absolument.
Merci Carlos Moreno d'avoir été notre boussole hein, pour cette première émission de cette deuxième saison. On va rappeler que vous êtes l'auteur de « Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 » point d'interrogation, paru aux éditions de l'Observatoire.
Merci Johanna et merci à toute l'équipe de Radio Imo qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée en podcast, comme on dit, sur le site de Radio Imo et sur tous les players de podcast. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.